Actes chapitre 19. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, nous allons voir quelques textes sur la vie de l'Esprit, sur l'importance du baptême du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui a parcouru l'Asie, il arrive à Éphèse et il rencontre des disciples. Actes chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 6. Il s'adresse, il arrive vers des chrétiens. Mettez-vous bien l'idée dans la tête qu'il arrive dans un groupe d'hommes qui sont déjà des disciples du Seigneur Jésus. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisait. Amen. Nous avons là une histoire extraordinaire qui commence avec une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est une question qu'on peut poser aujourd'hui. Même dans nos églises, même dans l'église où il y a l'Esprit de Pentecôte, laissez-moi vous dire qu'on peut poser la question à beaucoup de chrétiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils ont, vous avez vu leur réponse, alors ils ont dit, mais alors de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc, il leur explique, vous avez vu qu'il y a deux baptêmes dans cette affaire, trois. Le baptême de Jean-Baptiste, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Paul leur explique, en fin de compte, qu'ils n'avaient pris qu'un baptême, un baptême de repentance, qui expliquait qu'ils acceptaient le fait qu'après Jean-Baptiste allait venir le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir entendu donc que ces choses, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme quoi, voyez, il peut y avoir plusieurs baptêmes. D'accord avec moi, hein? Donc, ils sont, en entendant ces choses, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils sont baptisés du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Là, vous avez quelque chose qui nous enseigne beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on a été baptisé, même par immersion, que ça a été le bon baptême. Il y en a qui ont été baptisés, peut-être petits. Et certains se réfugient derrière le baptême qu'on leur a administré lorsqu'ils étaient petits, ou parce que c'était comme ça que ça se passait. Mais nous avons là la preuve que le baptême de repentance, c'est une chose qui faisait qu'ils acceptaient Jésus-Christ, mais le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une chose différente. Et après avoir entendu qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit et qu'il y avait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont voulu prendre le baptême au nom de Jésus-Christ, parce que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est un engagement. Vous savez, se repentir, c'est une chose. S'engager avec Dieu, c'en est une autre. Et vous avez vu, c'est facile à comprendre, et je crois que nous voyons de plus en plus de gens qui disent « Ah, mais moi j'ai été baptisé, petit, c'est pareil. » Non, c'est pas pareil, vous en avez la preuve là. Et nous comprenons pourquoi ce groupe a été baptisé du Saint-Esprit, c'est parce que dès qu'ils ont compris déjà que le baptême qu'ils avaient pris n'était pas conforme à celui qui est enseigné dans les évangiles, eh bien ils l'ont de suite pris ce baptême qui est un engagement. Vous avez vu quand Jésus a pris le baptême? Bon, c'est notre sujet, mais c'est quand même quelque chose. Quand Jésus a pris le baptême, il obéissait à Dieu. Donc, et le ciel s'est ouvert, il était en train d'obéir. Et nous voyons déjà que l'obéissance amène la bénédiction. C'est important d'obéir au Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous montrer? Peut-être que vous êtes, c'est loin du baptême, mais c'est peut-être autre chose. Un nouveau, c'est clair que Dieu va l'interpeller avec le baptême d'eau. Le nouveau va de suite après être interpellé avec le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que nous devrions faire continuellement dans les églises. Dès que quelqu'un est baptisé d'eau, nous devrions l'amener à ce baptême du Saint-Esprit. Nous voyons aussi dans ce texte que le baptême du Saint-Esprit n'est pas le baptême d'eau. Vous savez qu'il y a certaines dénominations qui disent que quand quelqu'un est baptisé d'eau, eh bien il est baptisé du Saint-Esprit. Bon, on voit bien que la chose n'est pas du tout ainsi. C'est une chose que d'être baptisé d'eau, c'est une chose le baptême de Jean, c'en est une autre le baptême au nom de Jésus-Christ, et c'en est une autre d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce texte nous enseigne une chose, que lorsque l'apôtre Paul arrivait dans une église, conduit par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. C'est comme ça que vous le voyez? Est-ce que ce n'est pas comme ça? Ben oui. Avez-vous été baptisé? Vous voyez, connaissez-vous le Saint-Esprit? C'est quelque chose qui devrait se passer dans toutes les églises du monde à partir du moment où des gens découvrent l'Évangile, où se repentent de leurs péchés et prennent le baptême par immersion. La chose qui doit s'en suivre automatiquement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. C'est exactement cela qui ressort. L'Église primitive a commencé quand? Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est notre modèle et ne nous amusons pas à croire que parce que nous sommes dans une société modernisée, évoluée, pleine de technologies, que nous pourrons atteindre les gens avec les paraboles, les vidéoprojections et tout ce que vous voudrez. Nous atteindrons le cœur des pécheurs par la puissance du Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que l'Évangile peut être diffusé beaucoup plus facilement qu'on gagnera des âmes. Pour gagner une âme, il faut la conviction de péché dans le cœur de cette personne-là. Oui, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est quelque chose de sérieux. Est-ce que c'était des chrétiens, ces gens? Ah oui, vous avez vu au verset 1er, hein, il a rencontré des disciples. C'était des disciples, de véritables chrétiens, certainement qu'ils étaient remplis même de qualités, parce qu'un chrétien, eh bien, il a des qualités, oui ou non? Est-ce qu'on peut avoir des qualités naturelles, des qualités que le Seigneur nous accorde exactement? Mais voyez, malgré le fait que c'était des disciples remplis de qualités, il leur manquait cette grâce indispensable pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Ce n'est pas que l'apôtre Paul qui agissait de cette façon-là. Regardez Pierre dans Actes au chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, verset, c'est pareil, ils avaient été baptisés. Ces gens-là avaient été baptisés par Philippe lors d'une première campagne d'évangélisation. On le voit, on peut lire le verset 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Voyez. Verset 14, bon, ça c'était un évangéliste qui avait fait son travail, mais là, les apôtres, verset 14, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Nous voyons que dans l'Église primitive, ce n'était pas qu'à Éphèse, en Asie, où l'apôtre Paul a voulu que les disciples soient baptisés du Saint-Esprit. Dès qu'à Samarie, l'Église a commencé, dès que l'œuvre de Dieu s'est manifestée par un évangéliste, de suite, Dieu a conduit deux apôtres pour qu'ils fassent en sorte que ces disciples-là soient baptisés du Saint-Esprit. On l'a lu, afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. C'était, bien sûr, c'était des apôtres, hein, c'était des hommes de foi, ils n'ont pas été là que pour enseigner, ils ont été là-bas pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient commencé une vie de disciples, ils étaient de vrais chrétiens, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Nous voyons, rien que par ces deux textes, dans le livre des Actes, l'importance pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu d'être baptisé du Saint-Esprit, ce qui a été beaucoup négligé. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend le baptême, on dit « Bon, écoute, il faut trouver ta place dans l'Église, vite, vite, fais ceci, fais cela. » Et c'est une erreur. Bien sûr qu'il faut que, dès que quelqu'un se convertisse, d'ailleurs, s'il est vraiment converti, il va avoir besoin de faire quelque chose pour Dieu. Mais c'est une grosse erreur que de l'amener à un service sans qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous fait vraiment entrer dans les œuvres qu'il a préparées à l'avance. Il y a des œuvres qui sont préparées. On l'a lu, vous voyez, du temps de Jérémie, là, ça allait mal. Hein. Ça allait mal et ils se sont presque tous fait avoir. Ils ont voulu faire à leur façon et ils n'ont pas connu ce que Dieu avait préparé pour eux quand Dieu a dit « Mais j'ai des projets pour vous, des projets de paix et d'espérance. » Est-ce que Dieu a des projets pour l'Église aujourd'hui? Oui, il a des projets. Je le répète, il a des projets pour chacun de vous, pour l'Assemblée de Sainte-Agne, pour l'Assemblée des Minimes, l'Assemblée de Toulouse-Ouest, pour toutes les églises qui prêchent la parole de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit nous fera entrer dans les œuvres, dans les activités qu'il a préparées. Et ça, c'est quelque chose que nous comprenons dès que nous lisons le livre des Actes. Dès le jour de la Pentecôte, les hommes ont été changés. Pierre avant la Pentecôte, vous avez vu Pierre avant la Pentecôte? Est-ce que c'était un disciple avant la Pentecôte? Est-ce qu'il était converti? Oui, il était converti. Mais il avait besoin du baptême du Saint-Esprit. Quand on le voit devant une simple servante en train de renier le maître, parce qu'elle l'accuse de faire partie du groupe. Quand on le voit le jour de la Pentecôte, est-ce qu'il a eu peur des souverains sacrificateurs? Est-ce qu'il a eu peur de la foule? Non. Et pourtant, il avait commis une grosse, grosse erreur, un gros péché. Il avait renié Jésus-Christ, mais Dieu l'avait réhabilité. Et le jour de la Pentecôte, qui c'est le premier devant toute cette foule à prêcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été baptisé du Saint-Esprit. Pierre avait besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Jean avait besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. C'était des disciples, ils avaient marché avec Jésus, mais ils en avaient besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le baptême du Saint-Esprit qui produit une transformation. Une vraie transformation. On peut changer et faire quelques progrès. Mais mes frères et sœurs, je vous assure, nous ne devons pas penser qu'on va pouvoir faire cette œuvre merveilleuse sans recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Il y a un seul cas dans le Nouveau Testament où le Saint-Esprit a été accordé sans qu'il ne soit recherché, c'est dans le cas de Corneille. Regardez dans Actes au chapitre 10. Dans Actes au chapitre 10, alors c'est vrai que c'est la première fois que le Saint-Esprit est accordé à ce qu'on appelle les gentils. Hein? Regardez, Actes chapitre 10, il faudrait lire tout le chapitre pour voir comment Dieu a amené cette affaire-là, Actes chapitre 10, verset 44. Vous y êtes ? Actes 10, 44. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre dit : Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent, etc., de rester quelques jours. » Donc c'est ce cas où on ne voit pas qu'il y ait eu une recherche vraiment du baptême du Saint-Esprit. C'est la première fois que le Saint-Esprit descend sur des païens. C'est peut-être pour cette raison que ça s'est passé de cette façon-là. Mais de toute évidence, l'Écriture nous enseigne que le don du Saint-Esprit est accordé à la condition que nous le recherchions, que nous l'attendions de tout notre cœur, que nous soyons fervents d'esprit, comme les disciples qui ont attendu pendant 10 jours dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'on en est conscient là? Ça fait 2 mois qu'on en parle à peu près d'une façon ou d'une autre. Est-ce que nous sommes conscients? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 mois qu'on étudie sur le Saint-Esprit? Cela vous a-t-il encouragé? Cela vous a-t-il interpellé? Cela vous a-t-il mobilisé? Cela vous donne-t-il envie d'avoir une maison de prière? Cela vous donne-t-il du courage de dire « Mais c'est vrai, l'œuvre de Dieu ne peut se faire que par le Saint-Esprit, qu'on soit une poignée de 12, ou qu'on soit 200, ou qu'on soit 2000. » Vous savez, même dans une église où il y a 3000 personnes, s'il n'y a pas l'approbation de Dieu, rien ne se passera. Ce matin, je lisais le prophète Agé, mais vraiment, j'étais poussé à lire ce livre ce matin. Et quand Dieu leur dit, mais vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup travaillé, vous avez semé, vous avez fi, vous avez fait cela, et j'ai soufflé dessus. Mais ça, ce n'est pas le souffle du Saint-Esprit, là. Ça veut dire que Dieu a tout détruit, parce qu'il ne les a pas approuvés. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et voyez, après, de suite, avec Zorobabel, tout ça, Zacharie, ils vont se réveiller, la crainte de Dieu va revenir, et Dieu va leur dire, je suis avec vous de nouveau. De suite, il leur dit, je suis avec vous. Mais voyez, ils avaient beaucoup fait, et Dieu leur dit, voilà, ce que vous avez fait, je souffle dessus. Je le détruis. Et nous ne voulons pas que Dieu nous dise la même chose, nous voulons véritablement avoir la crainte de Dieu. Depuis que vous écoutez ces prédications sur la vie de l'Esprit, qu'en avez-vous fait? Vous y êtes-vous attelé sérieusement? Vous êtes-vous dit, oui, je reconnais que si je veux faire l'œuvre de Dieu dans ma vie, eh bien il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit. Lisons maintenant dans Éphésiens au chapitre 1, verset 13. Ce soir c'est un peu doctrinal, mais il le faut. Il le faut, comme c'est enregistré, ça doit rentrer dans la vie de l'esprit, la doctrine. On ne peut pas passer outre et parler de la vie de l'esprit sans parler de la doctrine. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il nous est parlé du fait que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous y êtes, hein? Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Donc nous voyons dans quel ordre se passent les choses. C'est important, la doctrine c'est ça. Et comme quand même l'apôtre le dit, mais dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alors vous avez vu, après avoir entendu, l'ordre normal dans l'Église, on doit entendre la parole de la vérité. Pour nous amener au salut, bien sûr, pour nous amener à la croix, pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Mais une fois que nous avons entendu et que le Saint-Esprit a pu agir, nous avons cru. En lui, vous, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Ça, c'est l'ordre. Entendre, croire, et après, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà une des grandes bénédictions du chrétien. Il n'est pas devenu religieux, il a été scellé du Saint-Esprit. Alors, quel est le sens du mot scellé? Le mot scellé parle de deux hommes qui ont signé un contrat. Aujourd'hui, on met des signatures, parfois on met des tampons, vous savez. Mais avant, on le voit des fois dans certains vieux films, etc., il y avait un sceau. On a posé un sceau, le sceau de celui qui voulait signer un contrat. Le Seigneur dit, vous avez été scellés. C'est-à-dire qu'il y a eu le tampon de Dieu sur notre décision. Nous avons accepté Jésus-Christ. Voilà, quand un pécheur croit en Jésus-Christ, bon, il sait que Dieu est vivant, il sait que Dieu est le véritable, il sait bien qu'il n'a plus affaire à une religion, à une dénomination, on n'est plus dans le débat stupide et stérile de la religion, moi je suis catholique, moi je suis évangélique, ah moi je sais ci et moi ce c'est là. Non, quand quelqu'un entend l'évangile de la vérité, quand quelqu'un croit, il sait que Dieu est vivant. Mais après ça ne s'arrête pas là, il nous est dit que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Et qu'il est scellé. Vous avez été scellé du Saint-Esprit. Nous le savons que nous avons été acceptés par Dieu. Voilà ce que nous sommes. Quand un chrétien, quand un pécheur accepte Jésus-Christ, il est scellé du Saint-Esprit. Il sait qu'il est accepté de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes accepté de Dieu? Vous le savez? C'est important? Il y a des gens, des fois, alors vous êtes converti? Ben oui. Vous irez au ciel? Ben oui, j'espère. On l'entend ça? On l'entend? Vous dites jamais alors que vous pensez qu'un jour vous croyez que Dieu vous acceptera? Ben ouais, je sais pas si c'est bien, je sais pas, enfin on verra. On est loin de ça là. Nous voyons autre chose dans l'épître aux Éphésiens. Nous voyons qu'après avoir entendu, nous avons cru. Et après que nous ayons cru en Dieu, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. C'est important parce que si on veut véritablement avoir de l'assurance, c'est bien de savoir que nous sommes acceptés dans le bien-aimé, que nous sommes ses enfants. Regardez encore, c'est encore mieux dit peut-être dans les 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1. Ce sont des choses importantes. Si on veut avoir de l'assurance dans la vie de l'esprit, il faut savoir ce que nous sommes. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Regardez. Qu'est-ce que Dieu dit à ses frères et sœurs? 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Regardez bien. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous savez, mes frères et sœurs, que nous sommes marqués d'un sceau. Vous le savez? C'est écrit dans l'Apocalypse. Moi, j'ai lu plusieurs affaires de missionnaires en Afrique qui ont entendu le témoignage de sorcières qui se sont converties et qui disaient et qui témoignaient que lorsque certaines personnes venaient les rencontrer avant leur conversion pour faire du mal à certaines personnes, elles disaient sur ces personnes-là, je ne sais pas parce qu'il y a, on ne peut rien faire, elles ont un sceau sur le front. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas formidable ça? Non? Ah bon, je trouve que c'est bien. Vous trouvez pas que c'est merveilleux? Mais franchement, quelle bénédiction! Parce que les chrétiens, ils sont scellés. Alors il y a beaucoup de choses, vous savez, qui ont un lien avec l'invisible. Mais la Bible est catégorique. Celui qui nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts, ça signifie, vous savez ce que c'est les arts? Vous avez déjà versé des arts? Bon, eh bien, ça signifie qu'il y a une part qui a déjà été donnée. Nous avons reçu les arts de l'esprit, ça veut dire que nous avons reçu déjà une part de l'héritage. Un gage, les arts, ça signifie qu'un jour, nous aurons, si nous persévérons jusqu'à la fin, tout l'héritage. Alléluia! C'est important pour vous d'avoir tout l'héritage un jour? Mais oui, moi pour moi, oui. C'est important. Nous avons reçu les arts. C'est la preuve. Lorsque quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, lorsqu'il a les arts de l'Esprit, c'est la preuve que s'il persévère, il participera un jour à la gloire de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si nous le réalisons. C'est peut-être tellement formidable que nous n'y prenons pas attention. Ou on l'a lu de manière intellectuelle. Mes frères et sœurs, nous avons été scellés. Le Seigneur nous a marqués. Il y a sur notre front, je pense, puisque c'est écrit dans l'Apocalypse, il y a la marque du Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas senti, le tampon, lorsque Dieu l'a mis. Mais moi, je vous dis que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Et il faut que cette vie, après avoir entendu, après avoir cru, après avoir été scellé du Saint-Esprit, il faut que cette vie vienne, que cette vie se manifeste, que cette vie augmente. Il faut qu'il y ait progression. Lisez avec moi dans Éphésiens toujours. Dans Éphésiens, on le voit, l'apôtre Paul leur parle qu'ils ont été scellés, mais regardez ce qu'il leur dit. Vous savez que les trois premiers chapitres de Paul aux Éphésiens nous parlent de notre position en Christ, ce que nous sommes ou ce que nous devrions être, et comment cette position doit nous amener à une vie de progression spirituelle. Éphésiens chapitre 3, verset 13. On va lire le verset 12. Pour que nous nous souvenions toujours que nous avons la liberté de nous approcher de Jésus. Vous aimez vous approcher de Dieu? Jérémie nous parlait tout à l'heure d'aimer la présence de Dieu. Vous aimez la présence de Dieu ou vous préférez la présence de Canal+, je ne sais pas, ou autre chose? Il y en a, ils aiment Canal+. Ils passent des heures dans la télé. Et ouais, c'est bien triste. Éphésiens chapitre 3, verset 12. Regardez bien. Lisez, mes frères, c'est la fin de toute notre position en Christ. Ce qu'est un enfant de Dieu, c'est quoi un chrétien? Qu'est-ce qu'il apprend après avoir entendu, après avoir cru, après avoir été scellé? Qu'est-ce que c'est qu'il est? Regardez la conclusion de cette position. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Mes frères et sœurs, rappelez-vous que vous pouvez toujours vous approcher de Dieu. Même si ça ne va pas, vous pouvez vous approcher de Dieu avec confiance. Il ne vous rejettera pas. Regardez la vie de l'esprit, comment elle est présentée. C'est toute une progression. On est parti du verset 13 du chapitre 1er, scellé du Saint-Esprit. On ne prend pas tout, mais on arrive à cette progression de l'esprit. Alors, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire.
Vous voyez, Paul souffrait, il était en prison d'ailleurs, mais il était dans la volonté de Dieu. Ça fait que pour lui, tout se transformait en gloire quand il avait eu cette écharde, vous vous rappelez? Quand il a eu l'écharde, hein, il a prié, il a supplié Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit, et cette vie de l'Esprit par une nouvelle révélation dans l'épreuve qu'il traversait a pu lui faire dire, mais la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Voyez, c'est ça la vie de l'Esprit. Il n'est pas sorti comme il le voulait de cette épreuve, mais on le voit, il est là dans la prison et il est rempli du Saint-Esprit. La preuve, il écrit des choses qui ont l'approbation de Dieu puisqu'elles sont dans la Bible, voyez un peu. Hein, voyez, bon, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Voyez, ils avaient déjà reçu. Regardez par exemple, il faut le lire. Regardez, au verset 15 du chapitre 1er. Ils avaient déjà reçu. Peut-être que certains d'entre nous, nous en sommes là. Peut-être que nous sommes au verset 15 du chapitre 1er. Regardez, Éphésiens 1, 15. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, » Est-ce que c'est bien quand on peut dire ça de quelqu'un? Est-ce que c'est bien si on peut dire de vous, « Ah, ben moi j'ai entendu parler de vous, et ben on m'a parlé de votre amour et de votre foi pour le royaume de Dieu. » Est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien. Mais voyez, c'est pas parce qu'on aurait pu entendre parler de nous et que ça irait pas trop mal que Dieu en a terminé avec nous. Voyez, alors, on voit plus loin. C'est ça la progression. Voyez, verset 16. « Qu'il vous donne, ils avaient déjà reçu, mais Dieu veut donner encore plus, et c'est pareil pour nous. » Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, sens, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pendant le premier siècle. C'est ça que vous avez? Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Nous voyons une chose, nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit, nous avons les arts de l'Esprit. Les arts, je le répète, vous avez une part de l'héritage. L'héritage total sera dans les cieux, c'est sûr que si nous donnions tout aujourd'hui, on ne saurait pas quoi faire. Mais mes frères et sœurs, nous avons été scellés, nous avons été marqués, nous avons les arts. Et tout cela doit nous amener à de l'assurance. Et dit, mais attends, mais c'est vrai, j'ai la foi, j'ai de l'amour, mais Dieu me parle de plénitude. Où j'en suis de cette plénitude? Moi le premier qui vous parle, où j'en suis de cette vie de plénitude? Mais qu'est-ce que ça signifie être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je l'ai déjà été? Est-ce que parler en langue, c'est la seule manifestation de l'Esprit? Est-ce qu'il n'y a pas une vie de l'Esprit beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons chanté, ne sais-tu pas, que je suis le temple. Mais on peut le chanter, moi je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui chantent ça, ils ne réalisent pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment c'est le chant? Savez-vous que vous êtes le temple? Tout le monde va dire, mais oui, on le sait qu'on est le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on sait vraiment que notre corps est vraiment une maison où le Seigneur veut manifester sa gloire au travers de nos vies, au travers de nos paroles, au travers de nos actions, où Dieu veut pouvoir parler au travers de nous, oui, afin d'être des véritables témoins. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Christ habite dans nos cœurs par la foi? Les chrétiens de Éphèse, je ne sais pas comment ils ont réagi. Quand ils ont reçu la lettre, ils ont dit, mais attends, mais Christ, il est en nous. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Paul? Qu'est-ce qui lui prend? Mais je crois qu'il y a une progression, mes frères et sœurs. Les trois chapitres, si vous les étudiez, vous allez voir combien Dieu ne se contente pas de nous donner des arts. Dieu veut nous donner sa puissance. Si vous avez entendu, si vous avez cru, si vous vous êtes repenti de votre péché, si vous avez pris le baptême d'eau
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que vous vous êtes engagé, que Dieu est devenu votre Père, que vous avez accepté le fait de dire que Dieu est vivant. Quand quelqu'un prend le baptême, c'est le minimum, qu'il confesse que Dieu est vivant. Mais ce n'est pas ça, ça ne suffit pas. Il faut aller à une vie où le Saint-Esprit se manifeste, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Quand Paul dit aux Colossiens, mais Christ en vous, il ajoute quoi ? L'espérance de la gloire. Et nous pourrions prendre, vous voyez, d'une manière très, très doctrinale et très, très, très encourageante, tous les textes qui nous parlent du fait que lorsque quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, Jésus-Christ est en lui. Connaître les dimensions de l'amour de Dieu, est-ce que ça vous intéresse ? Vous allez me dire, oh, mais moi j'en ai assez. Est-ce qu'on en a assez pour nous ? Est-ce que Dieu est satisfait ? Est-ce que nous ne voudrions pas avoir davantage d'amour pour que cet amour nous presse davantage auprès des pécheurs ? Ce n'est pas toujours facile d'aimer les gens qui sont égoïstes. Oui ou non ? C'est facile d'aimer les pécheurs, dites-moi. Même si on dit « moi j'aime tout le monde », bien sûr, c'est bien d'être philanthrope, « moi j'aime tout le monde ». Bon, je veux bien. Bon, mais enfin quand même. Quand on travaille avec des pécheurs qui sont récalcitrants, quand on travaille avec des moqueurs, des blasphémateurs, c'est quand même mieux que l'amour de Jésus-Christ augmente dans notre cœur, que l'amour de Christ nous presse. Oui ou non ? Est-ce que vous voulez utiliser juste l'amour que vous aviez avant votre conversion ? Car malgré tout, humainement, on a de l'amour. Est-ce que les païens, ils aiment les païens ? Bien sûr, il y a de l'amour dans le monde, il ne faut pas rêver. Il y a une forme d'amour affectif, sentimental, humain, mais il y a un amour spirituel. C'est l'amour de Dieu. Et la Bible dit que quand on est baptisé du Saint-Esprit et quand on progresse dans la vie de l'Esprit, on peut découvrir les dimensions de l'amour de Dieu. N'est-ce pas formidable, mes frères et sœurs ? Alors, on a parlé tout à l'heure d'être affermi, d'être scellé, fortifié, enraciné, fondé, jusqu'où ça peut aller ? Jusqu'où ça peut aller ? Parce qu'on voit bien que il faut connaître ce qui surpasse la connaissance, vous avez vu ? Afin que nous connaissions l'amour qui surpasse toute connaissance. On voit bien que c'est pas intellectuel, c'est une connaissance spirituelle. Les intellectuels ne peuvent rien comprendre. D'ailleurs, Jésus le dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents. Alors, ça veut dire que par la sagesse humaine et par l'intelligence humaine, on ne peut pas découvrir ces choses. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est-il un esprit de sagesse et d'intelligence ? Est-ce que c'est écrit ? Où ? Dans Ésaïe, chapitre 11, au verset 2, il est dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse et d'intelligence. Alors quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est ce travail ? Jésus, il dit l'inverse, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Non, c'est qu'il y a une sagesse humaine, une intelligence humaine, et il y a une sagesse et une intelligence spirituelle que Dieu peut donner à des gens du peuple sans instruction. Pierre et Jean étaient des hommes du peuple sans instruction. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on nous demande pour que des serviteurs de Dieu se lèvent, qu'ils aient le bac, eh bien moi, voyez, peut-être qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas rentrer dans le ministère. Aujourd'hui. Parce que je n'ai pas le bac. Voilà. Vous me gardez quand même ? Ouais. Pas le bac. J'ai un bac à la maison, avec du sable, mais je n'ai pas le bac. Mais voyez, le danger de chercher à intellectualiser, c'est grave. Là, je vous le présente sous forme humoristique. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne pourront pas rentrer dans le ministère, dans certains endroits, oui ou non. Parce que, voilà, et ça, je peux vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Dieu, il utilise l'intelligence, ça c'est sûr. Mais Dieu utilise des hommes et des femmes qui cherchent l'esprit de sagesse et d'intelligence. Qui le cherchent en Dieu. C'est un esprit de conseil et de force. C'est toujours dans Ésaïe, chapitre 11. Un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et est-ce que pour terminer, ce n'est pas important de revenir sur ces paroles de Jean au chapitre 7 ? C'est vrai que ce soir, c'était peut-être doctrinal, mais il le faut, mes frères et sœurs. Il faut que nous comprenions que dès que Paul, Pierre allaient dans une église, ils vérifiaient si les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Jean chapitre 7. Je voudrais que nous n'oublions pas ces choses, mes frères et sœurs. J'ai oublié de parler du verset 20. Quand il est dit « Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Alors, dernièrement, il y a eu une prédication dans une église où il fallait rêver. Il fallait rêver, les rêves pour Dieu. Je rêve pour Dieu parce que Dieu peut faire infiniment. Alors là, vous voyez, on n'est pas dans le spirituel. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais là, ce texte nous dit que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il faut qu'il sache que les grâces de Dieu ne sont pas limitées à ce que nous pouvons penser. Vous entendez, mes frères et sœurs? Quand des hommes et des femmes ont le cœur tourné vers Dieu, quand des hommes et des femmes sont en train de vivre ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 3, ils peuvent penser, oui, que Dieu peut faire au-delà de ce que l'on peut imaginer. Mais c'est sur cette base-là. Prendre ce verset, Dieu peut faire infiniment, on le voit sur des posters des fois, et ce n'est pas à propos. C'est presque même dangereux de prendre un verset et de l'isoler. C'est ce que M. Olé nous enseigne depuis un an ou plus. Il nous dit surtout ne pas prendre un verset et l'isoler de son contexte. Vous voyez, c'est vrai que c'est chouette. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Oui, il y a une conjonction qui indique que, en fonction de ce qu'on vient de voir, si on le vit, que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit puisse penser que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'il pourrait croire, que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est ça que ça veut dire. C'est ça la sainte doctrine. C'est pas prendre un verset n'importe comment et lui faire dire n'importe quoi, que Dieu nous pardonne pour toutes ces fausses doctrines. Jean 7, 37 à 39. Regardez bien ces trois versets. Ils sont magnifiques, ces trois versets. C'est une clé. Voilà. Vous avez dans ce texte une clé. Une clé, mais il faut l'utiliser. Voilà. Si on n'a pas la clé, on ne peut pas l'utiliser. Comme la porte. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte tout ce qui est enseigné dans ces trois versets? Quelles sont les vérités enseignées dans ces trois versets? Ça veut dire que l'Esprit Saint, avec toutes les grâces que j'ai évoquées plus ou moins dans cette prédication, découle sur tous les croyants, sans exception. Si quelqu'un a soif, il ne peut pas y avoir une promesse plus universelle. Vous comprenez? Quand Jésus dit « si quelqu'un », c'est pour qui? C'est donc pour tout le monde. Ce soir, même si vous n'êtes pas converti, cette promesse, bien sûr, à condition que vous vous convertissiez, est pour vous. Quand Jésus dit « si quelqu'un a soif », c'est une promesse qui embrasse tout le monde, tout l'univers, à condition, bien sûr, qu'il y ait cette vie en Jésus-Christ, qu'il vienne, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Au moment où Jésus parlait de ce baptême-là, aucun croyant n'avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Même après sa conversion, il parlait de ceux qui le recevraient plus tard. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas à la conversion qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. On peut le recevoir le même jour, oui ou non? Oui, mais il faut d'abord passer par la conversion. Il disait cela de ceux qui croiraient en lui, de ceux qui recevraient, donc parce qu'ils croiraient en lui. Des fleuves d'eau vive. Alors, réfléchissons à cette parole. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire des fleuves d'eau vive? Si on vous distribue un petit papier et qu'on vous demande, voilà, vous répondez, c'est un sondage pour un journal religieux, il faut que vous expliquiez, vous les chrétiens de Pentecôte, ce que signifie, ce que représente pour vous des fleuves d'eau vive. Qu'est-ce que vous écririez? Allez, vous allez m'aider pour terminer. Des fleuves d'eau vive, qu'est-ce que c'est? L'amour, la joie, la plénitude. Oui, la plénitude, ça c'est vrai. Encore, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce qu'au niveau, par exemple, de l'assurance, vous pensez que quelqu'un de qui des fleuves d'eau vive coulent de son sein doit avoir de l'assurance dans sa vie? Lorsqu'il prie, lorsqu'il s'approche de Dieu, c'est vrai qu'on peut s'approcher de Dieu, même que ça ne va pas du tout. Ça, c'est clair, pour être restauré, etc. Mais vous avouerez que c'est quand même dommage. On le voit, ça, hélas. On le voit, ça me désole. Je passe outre. Mais ça me désole quand on voit des chrétiens qui, tous les dimanches, « Seigneur, pardon, je veux prendre le pain et le vin », qui utilisent chaque dimanche pour retrouver la communion avec Dieu. Vous allez me dire, c'est mieux que rien.
Mais je crois que ce n'est pas ça la vie spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me comprenez ce que je veux dire? La vie chrétienne, ce n'est pas arriver le dimanche matin épuisé, en train de boiter, en rampant auprès de la Sainte-Seine. « Seigneur, je reviens retrouver la communion, merci pour le vin, merci. » Alors on n'a pas jugé, tant mieux. Mais vous comprenez bien qu'on n'est pas dans les fleuves d'eau vive là. Hein, on est plutôt dans le désert profond. Mes frères et sœurs, les fleuves d'eau vive, ce sont des hommes et des femmes qui, parce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, sont remplis d'assurance. Oui, il y a vraiment une plénitude de vie, de joie. Jésus est catégorique. Des fleuves d'eau vive. Dieu veut que nous possédions cette vie. Il n'a pas fait cette promesse pour nous faire bader. Il nous dit, c'est bien, voilà, vous allez rêver toute votre vie sur la terre. Voilà. Non, cette promesse, il veut la réaliser. Alléluia. Cette promesse, il veut l'accomplir. Des fleuves d'eau vive. Nous devons posséder cette vie parce que nous pouvons la posséder. Que nous le disions avant ou après, nous pouvons et nous devons posséder cette vie. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. La façon dont Pierre s'approche des Samaritains, on le voit. La façon dont l'apôtre Paul interpelle les Éphésiens, on le voit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais moi, je suis confus et honteux de ne pas avoir enseigné ces choses suffisamment. Ces choses n'ont pas été vécues parce qu'elles n'ont pas été enseignées. Vous avez vu dans Éphésiens, après avoir entendu, après avoir cru, vous avez... Eh bien, si on n'enseigne pas ces choses, les gens ne les recevront pas. Et vous pouvez dire, mais Seigneur, j'ai soif, je n'ai pas cette plénitude. Quand je parle, c'est pour me plaindre. Quand je parle, c'est pour râler. Quand je parle, je m'irrite. Quand je parle, je critique toujours. Quand je parle, c'est tout le temps pour faire du mal. C'est pas certainement ça que Jésus évoquait lorsqu'il parlait des fleuves d'eau vive. Vous êtes d'accord avec moi? Les fleuves d'eau vive, je crois que ça amène la bénédiction, la guérison, la consolation, l'espérance, l'assurance. Et je crois que c'est de cette façon-là, écoutez-moi bien, c'est de cette façon-là, parce qu'il faut être ordonné. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est de cette façon-là que les dons de 1 Corinthiens 12 se manifesteront. Vous me suivez? Parce que ça serait un petit peu hasardeux, un petit peu stupide de dire, Seigneur, moi je veux un don de puissance, moi je voudrais le don de prophétie. On y va dans 1 Corinthiens 12 sans passer par Jean 7. Vous me suivez? Parce que les dons du Saint-Esprit sont donnés à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit également. 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que cet après-midi, je réfléchis parce que je ne veux pas parler que du baptême du Saint-Esprit et passer de côté la doctrine. Je crois que Dieu bénit toute la parole. 1 Corinthiens chapitre 12, donc c'est tout un enseignement sur les dons spirituels. Alors à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, il y a les dons. Voilà, l'exercice des dons spirituels. Regardez, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Mais tout ça doit être précédé de ce que nous venons de voir dans Jean 7, 37. Ne nous imaginons pas que les dons spirituels et la manifestation des dons spirituels vont nous être accordés comme ça si au préalable nous n'avons pas une vie de l'Esprit qui jaillisse. Il faut quand même en être conscient. C'est cette communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que la Bible parle de la communion avec le Saint-Esprit? Oui, c'est-à-dire que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et c'est pour tout le monde, amènera l'abondance des dons spirituels. On le voit, et Dieu veut que tout le monde prophétise. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Je vois que le 1 Corinthiens 14, là on peut le lire, puisque c'est pas trop loin. Je vois que le retour, mais ça fait rien. Ce sont des choses qui sont enregistrées. Beaucoup de croyants écoutent ces enregistrements parce que beaucoup ont soif justement de cette vie de l'Esprit. Et donnez-moi encore quelques minutes. Regardez, 1 Corinthiens 14, 3 et 4. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. On le voit, et si vous lisez
Si vous lisez le verset 37, on ne parle jamais sur le verset 37. On parle toujours des premiers versets. Mais regardez, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Tiens donc. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est spirituel? Là, vous m'inquiétez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus-Christ, qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur? Oui, bon, franchement, ne me la refaites pas. C'est ça, être spirituel. Quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il est spirituel. Vous me suivez? Enfin, il doit l'être. C'est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un est spirituel, il reconnaîtra que ce n'est pas la lubie de l'apôtre ou la lubie d'un pasteur à Toulouse. C'est un commandement du Seigneur. Pourquoi? Regardez, parce que si vous lisez au verset 24, on va lire verset 23. « Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle en langue, s'il y a beaucoup d'inconvertis ou s'il y a des inconvertis, il faudrait éviter. « Mais si tous prophétisent, regardez bien, si tous prophétisent, ça veut dire que tous les chrétiens peuvent prophétiser, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. À quoi on reconnaît une église où le Saint-Esprit agit vraiment? C'est que les publicains, donc les païens, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, reconnaîtront que Dieu est réellement au milieu de nous, grâce au don de prophétie. On le lit, c'est une grâce réservée à tous les croyants. Des fois, les gens disent, c'est toujours les mêmes qui prophétisent. Eh bien, mettez-vous-y. Cherchez Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Moi, je vous le dis franchement. Je le dis, là, c'est pas le pasteur qui parle, c'est le chrétien, je descends 2 minutes de l'estrade. Moi, je ne m'autoriserai jamais à dire ça. Parce que c'est pas bien. Je crois que chacun, on doit se dire, Seigneur, je veux être spirituel. Si tu veux, Seigneur, que je prophétise, donne-moi ta pensée. Donne-moi ta pensée, Seigneur. Est-ce que tous les croyants peuvent prophétiser? Mais croyez-moi, je ne pense pas que ceux qui prophétisent régulièrement se plaindraient si les autres prophétisaient, afin que ceux qui prophétisent me reprennent si je me trompe. Mes frères et sœurs, je crois que dans une assemblée entière, Dieu veut que tous les croyants prophétisent, exercent les dons spirituels. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut absolument que nous nous appliquions individuellement à chercher Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce verset, « Je me laisserai trouver si vous me cherchez et si vous me cherchez de tout votre cœur. » L'esprit de prophétie, ce n'est pas de prédire des événements futurs, quoique ça peut arriver. Mais l'esprit de prophétie dans la Bible, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être devin. L'esprit de prophétie, c'est annoncer la vérité divine sous l'inspiration du Saint-Esprit de manière à édifier les chrétiens. C'est ça l'esprit de prophétie. C'est rapporter une vérité divine qui est inclue dans la parole de Dieu afin d'édifier les chrétiens. Et si nous sommes passés par la repentance, parce que vous savez, moi je suis peiné et de plus en plus choqué de voir que beaucoup de chrétiens acceptent, de pécheurs acceptent intellectuellement Jésus et ne se repentent pas. Pourquoi il n'y a pas de fruit? On verra dimanche avec justement certains aspects des paroles que c'est très 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 révélateur de quelqu'un qui a la vie de l'esprit. Parce que vous savez qu'il est écrit, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. On expliquera ça dimanche. Si nous sommes passés par la repentance, si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous devons avoir cette assurance que la promesse du Saint-Esprit, elle est pour chacun. Et que chacun doit s'appliquer à la réclamer, à la désirer, à avoir soif, jusqu'à ce qu'il obtienne. Les disciples de l'Église et les apôtres de l'Église primitive ont attendu dans la foi, dans la prière, dans l'obéissance, jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas des études bibliques tous les mardis et le dimanche, sur la doctrine du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, etc. On va le voir. Moi, je vais m'y appliquer, je vais le faire très consciencieusement, parce que c'est mon devoir d'aider les croyants à vivre la vie de l'Esprit. C'est ma responsabilité, c'est quelque chose que Dieu m'a demandé. Et Dieu bénira, je sais cela, parce que c'est sa volonté. Mais ce n'est pas une question d'étude, ce n'est pas une question de théologie, c'est une question de soif et d'amour et de dire je vais imiter les chrétiens, ils ont persévéré, je sais pas, ils nous aient pas dit grand chose, est-ce qu'ils ont jeûné pendant les 10 jours, est-ce que c'est écrit?
Non, ce n'est pas écrit. Moi, j'ai lu des bouquins, ils ont jeûné 10 jours. Mais ce n'est pas écrit. Ça, ce n'est pas vrai. Mais c'est possible. Est-ce que c'est possible qu'ils aient jeûné? Oui, en tous les cas, ils étaient vrais. Ils ont cherché, ils ont obéi, ils ont persévéré, ils ont pris au sérieux le fait qu'il fallait qu'ils attendent à Jérusalem le temps qu'il fallait. Est-ce que nous aimons la maison de prière? Est-ce que nous aimons vraiment prier? On a chanté « Nous aimons la présence du Saint-Esprit », mais vous pouvez le faire dans votre cœur. Vous pouvez chanter à la place « J'aime la présence de Google ». Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Si vous passez des heures sur Google, dans votre cœur, vous serez honnête. Vous serez honnête devant Dieu. Si vous passez 2 heures surtout à chatter ou tout ce que vous voulez, vous devriez chanter ça à la place. Ne le chantez pas fort, ça risque de perturber. Mais les gens de l'Église primitive qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont attendus. Ils ont voulu, et le temps qu'ils avaient de libre, ils l'ont préoccupé. Il y avait des femmes, il y avait la mère de Marie, etc., la mère de Jésus, Marie, c'est écrit. Mais je ne sais pas, ils devaient peut-être, certaines avaient des enfants, elles ne pouvaient pas passer 24 heures dans la chambre haute, vous le comprenez. Mais peut-être qu'elles avaient 1 heure le matin, et que vite, vite, après avoir amené les gosses à l'école, hop, elles partaient à l'église, j'en sais rien. Mais cela nous enseigne que nous devrions, quand nous avons du temps de libre, l'utiliser, bien sûr, de manière intelligente, parce qu'il y a un temps pour tout. On peut le faire, est-ce qu'on peut le faire en passant l'aspirateur? Est-ce qu'on peut prier en passant l'aspirateur? Est-ce qu'on peut prier? Non, mais je suis sérieux, je ris pas. Ce sont des choses solennelles, parce que l'édification de l'Église, le salut des pécheurs, la guérison des malades, la délivrance des captifs, le retour des fils prodigues, tout est lié au baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez le calculer comme vous le voudrez, ça n'a rien à voir avec le mouvement de Pentecôte. Je ne parle pas de la Pentecôte, je parle du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on est le mouvement de Pentecôte qu'on a le monopole du Saint-Esprit. Gardons-nous de cette ânerie, de cette stupidité. Nous aurons la vie de l'Esprit si nous avons soif du Seigneur. L'Église primitive l'a reçu, ils y ont cru, peut-être pas tous, mais ceux qui ont cru, ils ont persévéré. Et les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a peut-être pas plus besoin que l'Église primitive? Mais moi je me demande, dans une société corrompue, perverse, entièrement diabolique, je crois que les chrétiens de la fin des temps ont encore plus besoin du baptême du Saint-Esprit. Et ne tombons pas dans cette mégalomanie de croire que la technologie va remplacer le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est grave, c'est un aveuglement total de croire que parce que nous sommes dans une société moderne, avec, vous savez, ces vidéoconférences qu'on appelle ça, c'est... Voilà, dans le monde, ils font des vidéoconférences. Enfin, bon, écoutez, je ne suis pas contre. Je crois que Dieu peut parler comme ça. Mais le gars qui fait la vidéoconférence, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça ne servira à rien. Parce que la chair, ça ne sert à rien. Alors nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas nous relâcher, nous devons prendre tout ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que vous avez pris tout ce que Dieu voulait vous donner? Moi non, je ne le crois pas. Et j'espère, parce que si c'est ça le ministère, que ce que j'ai reçu, c'est bien pauvre. Je crois, mes frères et sœurs, que nous avons des choses à prendre encore. Est-ce qu'on veut les prendre? Les Éphésiens avaient beaucoup reçu, mais je peux vous dire, vous l'avez lu avec moi, que Dieu avait encore beaucoup de choses à leur donner. Nous devons prendre ce que nous avons à prendre, et nous devons peut-être mettre de côté ce qui est mauvais. L'amour du monde, est-ce qu'il ne faut pas l'extirper, l'amour du monde? Vous savez, la Bible dit que l'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Alors nous ne commençons pas à magouiller et à penser qu'on peut être spirituel en étant dans le monde. L'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Alors réglons le problème de suite. Est-ce qu'il ne faut pas bannir l'orgueil? Est-ce qu'il ne faut pas enlever l'incrédulité? Peut-être quelqu'un va dire, mais moi je ne sais pas si Dieu veut me baptiser du Saint-Esprit. Ne soyez pas incrédule, mais croyez, la promesse elle est universelle. Croyez-moi, peut-être c'est une idole, je parlais de Google, je l'ai dit avec un peu d'humour, c'était pas intelligent, mais vous savez très bien ce que ça veut dire. Il y a des idoles dans le cœur des chrétiens aujourd'hui, il y a des idoles dans cette église, et nous devons les renverser. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si vous voulez avoir des foyers où nous verrons la gloire de Dieu, il faut renverser les idoles. Quelque chose qui vous empêche de vous tenir devant Dieu, c'est une idole. Je vais vous dire quelque chose, que Dieu m'a mis à cœur. Voyez, je donne un exemple, la réunion va finir dans 5 minutes. Certains, vous allez parler jusqu'à 11h du soir ici. C'est bien. Mais voyez, si ça vous empêche demain matin de vous lever pour faire votre culte personnel, eh bien ça devient un problème. Qu'est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je peux vous dire que quand je me suis converti, que je travaillais sur les chantiers, j'allais, je me souviens, on le faisait avec Isabelle, je ne le dis pas pour me jeter des fleurs, mais c'était comme ça, j'allais à toutes les réunions. Et après la réunion, on partait. Et parce que le matin, je voulais me tenir devant Dieu avant d'aller sur les chantiers. J'en avais besoin, le pasteur ne m'a pas obligé, j'en avais besoin. Et voyez, ce sont des petites choses. Vous savez, les petites mouches, qu'est-ce qu'elle a dit la Bible, les petites mouches, que ça infecte ? L'huile. Et l'huile, c'est quoi ? L'huile, c'est quoi ? C'est la vie de l'esprit. Et voilà, des petites choses, des détails. Oh, c'est un détail, on va pas. Vous n'allez pas pinailler. Les petites mouches, ça bousille l'huile. Et c'est une petite chose. Mais voyez, la demi-heure, moi je ne suis pas contre, on peut parler jusqu'à minuit, si vous voulez. Mais franchement, si ça vous empêche demain matin de passer demi-heure devant Dieu, c'est un problème. Et il y a des choses qu'il faut prendre et il y a des choses qu'il faut laisser. Il faut que tout ce qui est contraire à la sainteté soit crucifié. Si vous êtes paresseux, changez la paresse par la ferveur d'esprit. C'est écrit, n'ayez pas de la paresse, soyez fervent d'esprit. Seigneur, tu vois, je veux être fervent d'esprit. Devenez-le, ça ne va pas vous tomber dessus. C'est à vous de décider, de dire, voilà, je vais être fervent d'esprit. C'est une question de timing, d'arranger votre téléphone, votre réveil, dire, voilà, je vais commencer à faire ces choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Dieu lui en confiera de plus grand. Je me souviens de ce... Je termine avec ce témoignage. Je me rappelle un gars qui venait de temps en temps. Et il venait, il me dit, voilà, monsieur Gros, je vais vous parler. Voilà, je voudrais que vous m'utilisiez. Parce que voilà, Dieu m'a dit que je serais un des plus grands prophètes au monde. Ben, je lui dis, mais écoutez, soyez le bienvenu. Mais je vous assure. Et le gars, il rigolait pas. Je lui dis, mais est-ce que vous pourriez, par contre, écoutez, c'est quand même, si vous venez ici, je vais être votre pasteur. Ça serait bien que vous commenciez, par contre, par être fidèle dans les petites choses. Ah non, 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 il me dit, moi je sais que Dieu m'a réservé de grandes choses. J'ai dit, écoutez, vous risquez de les attendre longtemps. Je crois que ce n'est pas sérieux. Dieu a des lois. La loi de Dieu, c'est celui qui veut de grandes choses demain, il faut qu'il soit fidèle dans les petites choses aujourd'hui. Ça marche comme ça. Il faut ces choses. Le monde a besoin d'une église baptisée du Saint-Esprit. Mais l'église aussi. Il n'y a pas que le monde qui a besoin de l'Église baptisée. L'Église aussi a besoin d'hommes et de femmes qui soient baptisés du Saint-Esprit. Et écoutez la voix de Dieu qui, au travers de mon ministère, vous dit ce soir, « Mon fils, donne-moi ton cœur et donne-moi-le entièrement. » Ce n'est pas moi qui vous le dis. Écoutez, faites-moi confiance. Vous le savez, des fois dans la prédication, des fois où il y a un peu d'humour, ce n'est pas intelligent, ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça vient de moi. Mais écoutez cette parole. Mon fils, donne-moi ton cœur, ça ne vient pas de moi, ça vient de Jésus. Ma fille, donne-moi ton cœur, alors tu me chercheras et tu me trouveras parce que tu me chercheras de tout ton cœur. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est archi sérieux. Mes frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Ça commence par la soif et ça se termine par les dons spirituels dans l'Église afin que tous les croyants prophétise. Ça ne dépend pas de l'intelligence, de la sagesse, des études, de la jeunesse, de la vieillesse. Ça dépend des cœurs disponibles et disposés qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Recueillons-nous quelques instants. Vous savez, ce sont des choses qui peuvent bouleverser l'Église. Et l'Église, si elle est bouleversée, elle bouleversera le monde. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous avons partagé ? Est-ce que vous êtes d'accord que Pierre devait aller en Samarie pour que les chrétiens soient baptisés ? Est-ce que vous êtes d'accord que Paul a été jusqu'à Éphèse ? Vous vous rendez compte ? Pour poser la question, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu qu'on soit tous baptisés du Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez soif ? Est-ce que vous faites partie de ce « oh, c'est toujours les mêmes qui prophétisent » ? Est-ce que vous êtes là dans cette espèce d'apitoiement ? Ou est-ce que vous êtes dans une vie de grâce, que Dieu a des projets, un avenir, de l'espérance ? Oui, c'est la fin des temps et vous croyez que ça perturbe Dieu ? Dieu est sur son trône, il règne, il veut baptiser une église. Voilà ce qu'il veut. Il veut vous dire comme à Samuel, arrête de pleurer, remplis ta corne d'huile et va. Voilà, mon fils, ma fille, lève-toi et donne-moi ton cœur, te dit le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Nous savons que tes projets sont bons. Nous savons que même si tu nous as déjà donné beaucoup d'amour, si tu nous as donné beaucoup de grâce, beaucoup de faveur, beaucoup de miséricorde, Seigneur, tu n'as pas arrêté de toute façon, malgré notre impiété, malgré notre légèreté, malgré notre faiblesse, malgré notre éloignement, tu n'as pas cessé de déverser tes faveurs sur nous. Et nous sommes confus et en même temps bouleversés que tu ne nous aies pas traités selon nos péchés. Tu ne nous as pas traités selon nos iniquités, tu ne nous as pas punis comme on aurait dû l'être, mais tu nous as gardés dans ta fidélité. Et ce soir, tu nous rappelles que tu as encore beaucoup de choses à nous donner, que tu as des verts pâturages, que tu as des eaux paisibles, qu'il y a des fleuves d'eau vive. Seigneur, tu vois cet auditoire et tous ceux qui écouteront cet enregistrement. Permets que des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux te donnent leur cœur et te le donnent entièrement. Permets que de cette soirée, des hommes et des femmes se mettent à te chercher de tout leur cœur. Tu vois ceux qui ont des idoles dans leur cœur, qu'ils les renversent par un acte de foi, par un acte d'obéissance. Tu vois ces jeunes en particulier qui, par le monde, sont attirés vers toutes ces méthodes techniques. Seigneur, s'il te plaît, donne-leur la joie d'être fervent d'esprit, de chercher ta face, afin que nous puissions voir qu'une chose dans cette église, des fleuves d'eau vive couler de nos seins et se déverser autant sur l'église que sur tous les gens que nous côtoierons. Ô Seigneur, aie pitié de nous, s'il te plaît. Fais une œuvre profonde et donne la victoire. Donne la victoire, Seigneur, à ceux qui sont dans la défaite. Donne la victoire à ceux qui ont échoué, Seigneur, dans leur foi, parce que ta vie de l'Esprit ne les a pas envahis. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus.